Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Christophe, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va, bien content d'être présent.
Enfin, le dernier étalon à entrer en piste. Aimes-tu l'image, Christophe? Ça ne doit pas arriver souvent, tu te fais traiter d'étalon dans le jeu de rôle. À moins de jouer à Little Pony.
Non, il n'y a que ma femme qui...
Et là, il n'y a pas de témoin, on peut pas. On va prendre ta parole. Christophe,
exactement.
Tu vas jouer un père, un peu comme Solomon qui fait un frère. Il y a 4 ordres au sein du Dominion et tu vas faire plus qu'un frère, tu es un père, un personnage d'un certain âge, 55 ans.
Hein, expérimenté.
Ouais.
J'ai déjà roulé ma bosse.
Oui, comme l'homme qui va être derrière le personnage. Est-ce que je te vieillis?
J'ai pas 55 ans, mais j'ai atteint mes 47, là, donc ouais.
On s'approche.
Je sais plus quel âge j'ai, en fait.
On a tendance à oublier avec vieillissant.
Non, on va s'arrêter à 42, c'est bien 42.
OK, et c'est un personnage, un peu hommage, on se cache pas du tout, avec un nom comme Guilhem de Basquerbourg, hein, très proche de Guillaume de Baskerville, personnage principal du roman Le nom de la rose d'Umberto Eco, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano, et on s'en était parlé il y a quelques semaines, hein, un film qui, en tout cas pour moi, m'a marqué, qui m'a sans doute...
Moi, ça fait partie de mes films cultes.
Ah oui, moi, ça a stimulé mon amour pour le médiéval, un médiéval sale et dur, hein, loin de la version édulcorée que Hollywood nous servait avant. Hein. Donc, tu te sens prêt. On fera pas le curriculum vitae du père Guilhem. Si tu veux bien, on va plutôt le découvrir à mesure qu'on va progresser dans les Chroniques de Babel. Tu veux bien?
Tout à fait. Allez, c'est parti.
J'aurais aimé ça commencer par toi, mais ça serait pas dans l'ordre chronologique. Et on va commencer avec Cal Shadim, avec Danny. Danny, ça va bien?
T'as très bien, toi?
Ouais. Puis Christophe, tu te gênes pas si tu veux intervenir, faire du bruitage pour la séquence avec avec Danny, Cal Shadim. Tu es le bienvenu. Ben. ça commence bien. On va te laisser pratiquer le vieux.
Précédemment, dans les chroniques de Babel, Solomon, Kenan et Ygritte voguent lentement vers les îles de fer, profitant de la quiétude que procure le voyage en mer. Pendant ce temps, Cal Shadim lutte pour sa vie. Payé par Sheena, la fille du vizir de la cité dure, le commandant Jamel Curiga retourne son épée contre Shadim, son capitaine. Curiga avait toujours vu en Cal Shadim un être dangereux, capable de bouleverser l'ordre établi qui veut que seuls les nobles s'élèvent dans la société civile et militaire. Cal tuera son commandant et quatre autres soldats. Le dernier, un archer, fuira les lieux, avec un Cal Shadim mourant au sol, le sachant condamné par le poison sur ses flèches. Condamné? Ça reste à voir.
Chapitre 1. Dur, dur, dur d'être encore en vie.
Cal, je commence avec toi.
Oui. Allons-y.
L'ombre qui s'étire sur le sable à tes pieds est frêle et nerveuse. C'est l'ombre d'un enfant de 11 ans. Tu relèves lentement la tête, offrant ton visage juvénile et imberbe au vent chaud du désert. À ta droite, une plaine de sable où quelques touffes d'herbe jaune et sèche dansent sous l'action d'une brise frivole. C'est dans cette direction, Cal, que vous envoyez paître vos chèvres. À ta gauche, comme si deux mondes se rencontraient sous tes pieds, le sable se marbre de taches blanches, ici et là, à cause de ces pierres de calcaire de couleur ivoire que le vent dénude par endroits. Au loin, dans cette direction, la dent de roc, un mont rocheux qui brise la ligne d'horizon. Ton regard revient devant toi, vers ton village. À quoi ressemble ton village, Cal?
C'est un village de fermiers, évidemment. Il y a des fermes dispersées, ça et là, de chaque côté. La petite colline qui est en contrebas, où est-ce qu'on voit justement les pâturages de chèvres et d'autres animaux domestiques comme ça, d'autres animaux de la ferme. Des enfants jouent un peu partout. C'est très pastoral. Il n'y a pas beaucoup d'établissements communs. Les gens se retrouvent à la place centrale que forme un peu l'espace entre les différentes maisons. Et voilà. Si vous n'êtes pas fermier dans ce village-là, bien vous êtes un forgeron. Vous êtes peut-être un charcutier. Vous êtes mais évidemment, c'est le trot qui mène et il n'y a pas vraiment de. C'est très paisible comme endroit.
C'est l'essentiel qui est là.
Voilà.
Il n'y a pas de superflu. Là.
Non. Très bien. Y a, pour le superflu, il y a la grande ville un peu plus loin où est-ce que. Ouais. La grande ville un peu plus loin pour laquelle on y va seulement lorsque c'est nécessaire, mais évidemment, il y a le col de montagne à traverser avant, donc c'est pas. C'est un endroit quand même qui ça peut être plus dangereux à l'occasion.
OK, et la population, elle se dénombre à combien de têtes?
Ouais, je dirais que si une centaine d'armes, c'est beau.
Très bien.
C'est un petit village.
Très bien. Derrière toi, Cal.
Cal, toujours en train de rêvasser?
C'est la voix impérieuse de ton père. Pour toi, enfant, elle revêt un peu l'autorité d'un roi. J'aimerais savoir, quelle est ta relation avec ton père, Bakar Shadim?
C'est une relation qui est basée sur... Disons que mon père, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de patience. C'est pas quelqu'un qui s'attend de certaines choses de ses fils. Et il tolère pas beaucoup les écarts là-dedans. Ce qui par le fait même, Cal a tendance souvent à s'égarer dans sa tête et rêvassé, mais il se fait rapidement remettre à l'ordre par un coup de bâton de berger ou comme ça. C'est pas un homme violent pour autant, mais c'est un homme intransigeant.
Très bien. Nous allons bientôt manger et Noiraud n'est pas revenu. Il fait allusion à l'une de vos chèvres, hein, un peu plus aventureuse que les autres. Il se retourne vers le désert tacheté, vers la dent de roc. La dernière fois que je l'ai vue, elle se dirigeait vers la dent de roc. La dent de roc, Cal. C'est un endroit envers lequel ton père et même tous les doyens du village t'ont toujours mis en garde de ne pas approcher.
Le soleil tombe rapidement. Il te reste peu de temps. Va la chercher. Et ne va pas flâner à tailler un bâton pour t'en faire un sable et guerroyer contre les herbes autres. Compris?
Est-ce qu'il y a un sourire sur le visage de ton père ou il est très sérieux dans ses consignes?
Non, je pense pas qu'il y a vraiment... il y a pas vraiment de sérieux, de sourire sur ses lèvres. Mais il y a très certainement un espèce de regard apeuré dans le visage de Cal qui signe « Papa, la dent de roche, c'est dangereux. »
Si tu y vas avant que le soleil ne disparaisse, tout ira bien. Va.
C'est le maximum de c'est le maximum de remise en question que Cal peut se permettre avec son père. Donc Cal va ramasser le bâton de berger qui est pas non loin de lui, un bâton à sa taille, recourbé, tout ça. Il reprend sa corde qui est aussi non loin de lui avec son autre dos et il prend le chemin. Un chemin qui, à plusieurs fois, on voit Cal qui regarde en arrière de lui comme s'il avait besoin de vraiment s'imprégner de la vision bucolique de son village, comme s'il reverrait jamais son village.
Ok.
Du moins, il reverrait jamais son village avec les yeux qu'il a présentement.
Ouais. Cal, dis-moi, est-ce que vas-tu flâner, jouer les soldats comme tu le fais si souvent?
Non. Non, Cal est un peu... il va le faire sûrement sur le chemin, mais il est plus... il est un peu tétanisé par la peur présente. Pas tétanisé, mais plutôt motivé par la peur. C'est quand même un endroit Cal a jamais remis en question la dangerosité de cet endroit-là. Et fait donc le fait d'avoir à y aller un peu... On voit Cal marcher les fesses serrées, si on peut dire.
Ouais,
il marche rapidement comme pour accomplir sa tâche le plus tôt possible et s'assurer de revenir avant le coucher du soleil.
Oui, puis j'imagine les enfants, étant donné que c'est un lieu interdit, qu'eux autres ont enrichi le lieu de rumeurs et de leur histoire. Là.
Ben, on ne sait pas vraiment. C'est exactement, il y a tout et rien qui est raconté là-dessus. Des morts vivants, des esprits, même le dragon des sables s'y cache. Donc, écoute, tout est dit.
OK, on a un code. Et on va se retrouver au pied de la dent de roc. La caméra peut-être en contre-prolongée sur ton épaule pour bien prendre la mesure du monument de pierre colossale qui se dresse devant toi. Un peu comme une promesse d'une porte qui s'ouvre sur un autre monde. Difficile d'accès. Hein? Le bêlement d'une chèvre se répercute en écho contre la pierre. Ça vient d'en haut. Peut-être que Christophe serait capable... Moi, je renonce. Je sais même pas si ça bêle une chèvre.
Il me semble que ça bêle, oui. C'est une sorte de bêlement, oui. Tout à fait.
Tout le monde... c'est pas facile, les trucages, ici. Hein?
Hey.
Oh, Seigneur.
C'est pas là-dedans que j'ai mis le budget.
Non, pas du tout. Écoute, tu es devant ce roc. On va faire un jet de se mouvoir, esquiver, sous agilité. Et là, ben, on garde les mêmes stats de ta fiche de perso d'adulte. Et au lieu de modifier ta fiche, ben, j'ai tout simplement modifié les obstacles devant toi. C'est plus simple et ça donne le même résultat. Tu as combien de niveaux d'action sous ce mouvoir?
J'ai 7.
7.
De base, ton jet se fait à 40%. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait améliorer ce jet? Et quand je dis quelque chose, c'est pas seulement des astuces ou des objets. Ne serait-ce que le désir de plaire à ton père, c'est une motivation aussi.
Ben, je te dirais qu'il y a plusieurs motivations, dont le fait de le fait d'aller rapidement et de pas traîner. Donc, effectivement, là, je pense que Cal est très, très motivé à faire la tâche rapidement.
On va faire un jet à 60%. Bien sûr, un jet qui serait en haut. Ça ne veut pas dire que c'est raté, mais ça va nous pointer la direction de la fiction. À savoir si cette ascension va être très difficile pour le jeune Cal.
Eh bien, j'ai 61.
Je te laisse aller, mais on veut un petit peu de difficulté. Mais tu réussis, mais ça sera pas facile pour le jeune Cal.
Eh bien, Cal se lance dans l'ascension. Il a vu souvent les chèvres. Il a vu souvent les chèvres monter, tout ça. Il prend le temps quand même. Il a une espèce d'hypervigilance de par le lieu, mais. Mais à certains endroits, on voit que la pierre est pas stable. Même à certains endroits, la pierre c'est une pierre en strate. Donc on voit que ça se détache. À plusieurs moments, on voit Cal qui va juste stopper pour éponger le sang sur ses tibias et sur ses genoux à cause de ses forces, à cause de ses raflés sur la roche coupante et d'avoir juste manqué ou la pierre meuble sous ses pieds a dévalé, ce qui l'a fait un peu. Mais tant bien que mal, il stoppe pas. Il arrête pas. Il va utiliser une partie de sa tunique pour éponger le sang. Il va continuer. Toujours, on dirait, en oubliant la douleur. Et c'est très facile de comprendre qu'est-ce qui fait que cet enfant-là oublie la douleur. C'est qu'une fois de temps en temps, il regarde le soleil, savoir où est-ce qu'il en est et combien. Il évalue à peu près le temps qui lui reste avant de pouvoir revenir, qui lui reste avant de d'être en sécurité ou de revenir au bercail, parce que c'est réellement c'est la chose qui vient en tête. C'est la chose la plus importante dans sa tête présentement, c'est de revenir avant que le soleil se couche.
Écoute, j'entends d'ici ton petit cœur qui bat la chamade. Le souffle court. Tu te retrouves devant l'ouverture d'une grotte, une bouche noire, grande ouverte, qui dégage une odeur méphitique, qui te rappelle celle de la viande avariée, hein, pourrissant au soleil, grouillant de mouches puis de vers blancs. Pire encore, la vue de ces stalactites, par centaines, comme des dents jaunâtres d'un monstre aux dimensions cyclopéennes. Une gueule infernale prête à te déchiqueter. Tout ton corps est figé, hein, devant ce sentiment d'horreur que dégage la grotte. Même ton cœur, hein, qui semble avoir espacé ses battements au point de ne plus tambouriner, lui qui se débattait dans ta petite poitrine lors de l'ascension. Les bêlements viennent des ténèbres. Là, je te demanderais peut-être un jet de force mentale, courage. Tu as combien en niveau d'action, Cal?
J'ai 6.
6. Tu vas me faire ton jet à 40%. Toujours une fois pour montrer la difficulté que tu vas avoir pour monter tes peurs.
Cal a pas du tout envie d'y aller, mais bon, une image de 62. Ouais. Écoute, il a pas du tout envie d'y aller, mais bon, l'image de son père et de ce qui se passerait si Cal revient sans la chèvre, c'est à peu près c'est ce qu'il retient de ne pas se sauver à la course.
Donc tu fais un pas hésitant, un craquement sous tes pieds, rappelant celui de fragments de poterie que l'on piétine. Ton regard descend. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas?
Cal descend les yeux.
Des ossements.
Deux, trois pas vers l'arrière. Viens ici. Viens, stupide chèvre. Viens ici. Allez.
Une voix s'élève.
Bienvenue, mon enfant.
Cal, on t'entend soudainement crier. De ta voix d'adulte. À la fin de ton cri, une autre voix se fait entendre, comme à l'extérieur de ce souvenir horrible.
Il refuse d'entrer dans cette grotte. toute ma magie n'arrive pas à le persuader de me montrer ce qu'il a vécu enfant dans ce lieu maudit. » Une autre voix s'ajoute. « Je vous l'ai dit, il n'est pas comme les autres, maître. Shadim est une force de la nature. »
Cal, ton mauvais rêve issu de ton passé a complètement disparu. Tu sens maintenant la morsure glacée du métal à tes chevilles, à tes poignets, mais aussi sur tout ton dos. Tu es certain, tu es couché sur une inconfortable surface de fer. Mais les griffes du sommeil comateux te retiennent encore dans une léthargie immobile pour le moment.
« Je devrais te faire écarteler pour avoir sauvé la vie de Shadim, alors que je n'avais rien ordonné en ce sens, Zifa. Maître, je ne l'ai pas vraiment sauvé, c'est lui qui a accepté la moitié de la pomme que je lui ai tendue. C'est sa confiance en autrui qui a fait en sorte qu'il a ingurgité mon antidote. Ne joue pas au plus malin avec moi, Zifa. Tu n'y gagnerais que ta perte. C'est bien toi qui as traîné son corps mort jusqu'ici. Ce que le poison n'aurait su faire, le sang s'échappant de ses blessures sur le dallage de la rue, l'aurait accompli. Mille excuses, maître, mais le capitaine me fascine depuis que je suis rentré au service des Karamans comme précepteur. Lorsqu'il a assassiné mon écho, mon double, je l'ai suivi. Rapidement, j'ai vu qu'il était déjà pris en filature par des soldats vêtus en civil, des hommes du commandant Jamel Kuriga. Qu'importe! Je me félicite de sa survie désormais. Il y a bien quelque chose qui dort en cet homme, et j'ignore tout de sa nature. Fascinant.
Cal, tu es toujours plongé, ton corps un peu paralysé. Tu as combien en résistance physique sous robustesse?
J'ai 8.
Oh, tu vas me faire ton jet à 80.
Et ça fait 64.
C'est une réussite partielle. Tu ouvres les yeux sur un plafond bas et ténébreux que la clarté des torches, que tu devines en périphérie de ta vision, semble incapable d'éclairer complètement. Couché à l'horizontale, ta tête est prise dans un étau de fer qui t'empêche de bouger. Et une sensation de vertige brouille quelque peu ta vision encore. Des maux de cœur aussi poussent contre tes lèvres légèrement craquelées par la soif. Tout ton corps n'est que douleur et détresse. Lui que tu as entraîné et sculpté pour réagir et pour combattre semble t'avoir abandonné.
Je prends conscience de mon environnement, tant bien que mal, probablement en crachant par terre le espèce de résidu de vomi.
Tu vas avoir de la misère parce que ta tête est vraiment prise en étau, donc tu peux même pas tourner ta tête de côté. Si tu craches, c'est pour cracher en l'air.
Ah bien écoute, ça va être sur moi dans ce cas-là que je vais cracher cette espèce de vomi qui est resté dans ma bouche et... Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Pourquoi me détenez-vous?
Une main froide sur ton front, puis des doigts qui caressent tes cheveux moites de fièvre.
Chut! Mon beau capitaine, mon criminel... Mon tueur de commandant, repose-toi. Il me faut savoir ce qui dort en toi.
Mais par Shamash, qui es-tu? Et pourquoi t'adresses-tu à moi ainsi?
Ta vision se fait un peu moins trouble. Et tu vois ce visage, la peau cuivrée, plus foncée que la tienne. Mais surtout, ses symboles tatoués sur sa peau. Des symboles dorés. Et ses yeux. Des yeux entièrement d'or. Tu le reconnais, le conseiller enténébreur du roi, Azim, ton roi.
Zifa, passe-moi le couteau sur la table.
Que ressens-tu alors que... L'enténébreur, et t'aimes pas la magie, la ténèbre, et là qu'il demande un couteau...
Eh bien, c'est bonne chose que vous en finissiez rapidement. J'ai... probablement un agenda fort chargé dans l'autre monde.
Ne t'inquiète, mon beau capitaine. Je vais te remettre sur pied. Aïe! Imbécile! On ne tend jamais un couteau par sa pointe!
Et là, tu entends un fracas terrible et un son mat. celui d'un corps qui percute un solide mur.
« Je suis désolé, maître. La ferme. »
La voix redevient aussi, aussitôt plus mielleuse.
« Mon beau capitaine, tu vas sentir une piqûre. »
Et la douleur. Mais... Oui, vas-y, Cal.
Et qu'allez-vous me faire?
Et non, à ces mots-là, la douleur vient couper ta phrase, te transperce dans le bas du dos, comme un harpon à la lame dentelée qui t'aurait pêché. Tu comprends que la table de fer sous toi n'était pas pleine, du moins pas entièrement. À cette douleur, est-ce que tu cries? Est-ce que tu gémis, Cal?
Non, je lui donnerai pas cette satisfaction. Je fais juste retenir une espèce de
un grognement.
De petit grognement intérieur qui fait. Eh bien, est-ce là tout ce que vous avez pour moi?
Mon intention. C'est décevant. Mon intention n'est pas de te tuer, Cal Shaddim.
La caméra pivote lentement, pudique peut-être, se retourne de la scène, nous dévoilant ainsi toutes les machines de torture qui encombrent l'endroit. L'image se fige sur une autre table, identique à celle sur laquelle Cal Shaddim est enchaîné, à deux détails près. Elle est inclinée à 45 degrés et un homme dans la mi-cinquantaine y est prisonnier. Lui aussi, entravé par des chaînes. Le père Guilhem de Baskerbourg. Père Guilhem, tu chevauches entre la conscience et l'inconscience. Ce gémissement, ce grognement poussé par le capitaine Cal Shaddim t'attire peu à peu vers un monde plus tangible. Mais d'abord, voyons dans quel état tu te trouves, père Guilhem, veux-tu?
Mais bien sûr.
Moon, le conseiller en ténébreur du roi Maisonin, Azim, vous a démasqué, ton protégé et toi, puis enfermé. Vous étiez venu sur la côte de Meso pour confirmer ou infirmer une rumeur, selon laquelle le frère commandant Solomon, un véritable héros national pour ton royaume, le Dominion, serait toujours vivant et retenu captif. Moon est un maître dans l'art de la magie, la ténèbre, entre autres la psyché. Il est donc logique qu'il ait d'abord tenté de te soutirer des informations en allant directement les cueillir dans ton esprit, ton bel esprit. Dis-moi, Guilhem, en force mentale et courage, tu as combien de niveaux d'action?
J'en ai 7.
7. C'est pas facile, je vous l'ai dit, Moon est un personnage puissant. Ton jet se fait à 40%. Même si tu fais plus que 40%, ça veut pas dire que tu livres tes secrets, Christophe. Mais si jamais tu décides de garder tes secrets, va falloir payer un sacré prix.
Coup!
C'est une...
30.
Yes, une réussite partielle, mais tu peux transformer ça en une réussite totale, mais avec un mais, en payant un prix. Que décides-tu? Est-ce que tu lui livres la moitié des informations qu'il veut ou tu les retiens totalement?
Je pense que... Pour l'instant, je sais pas trop dans quelle situation je suis, donc... Je vais payer un prix.
Ouais. Et quel pourrait être ce prix à payer?
Eh bien, ça va pas mal me secouer, en fait. Et donc, je vais avoir un mal de tête qui va commencer et qui va perdurer. Et je pense que ça me donnera un moins 10% à la passe suivante.
Danny, es-tu correct? Es-tu tombé de ta chaise?
C'est pas moi.
Non, c'est moi.
Hey, Christophe, si tu veux bien... On peut laisser ça sur le coude un peu parce que il a pas réussi à aller chercher les informations grâce à la ténèbre. Mm-hmm. Mais t'es dans une salle de torture. Alors, après avoir farfouillé dans ton cerveau, c'est avec ses instruments qu'il a tenté d'aller chercher les informations. Maintenant, on va peut-être voir ton apparence physique. Combien as-tu en résistance physique sous robustesse?
5.
5. Tu vas me faire ton jet à 40% aussi.
Encore?
Tu ne pourras pas toujours t'en sortir. Je vais avoir mes informations.
Non, cette fois-ci, non.
Et un 77, c'est dans ton seuil au-dessus, c'est un fiasco. Hein, c'est comme un échec critique. Si jamais tu décides de pas donner d'informations, va falloir vraiment mettre le paquet sur la fiction qui frappe. Mais tu as la possibilité quand même de garder cette information.
On va pas taire sur ta proposition, elle me semble très bien.
Fait que tu gardes l'information. Guilhem de Baskerbourg, écoute, tu es un espion. Et un espion expérimenté, sans doute l'un des meilleurs de ton ordre, hein, les pages blanches. Et tu n'as pas cédé, ni mentalement, ni physiquement. Mais ça a un coût, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du père Guilhem pour l'instant?
Eh bien, à force de quelque part de trifouiller dans sa tête, de lui provoquer de la douleur physiquement, de le torturer, de déconstruire le père Guilhem, il y a comme une noirceur qui va petit à petit, une étincelle de noirceur qui va apparaître. Voilà, c'est juste une petite ombre, mais elle se retrouve au sein de l'esprit et du corps de Guilhem, dans une espèce de nouveau no man's land, une terre à conquérir, une terre qui a été abandonnée par l'esprit raisonnable et raisonné du père Guilhem. Ah, okay. Et là, elle va commencer à se développer.
Quelque chose qui viendrait de ton passé? Est-ce qu'il y a un côté sombre au père Guilhem, peut-être avant d'avoir prononcé ses vœux pour entrer dans l'ordre du savoir? Qui sait?
J'étais bien parti pour faire partie du bouclier, c'est ça?
L'ordre de l'arrondache?
L'arrondache, c'est-à-dire recruté à 12 ans, commencer à être formé, tout ça. Mais quelque part... lors des premières opérations, lors des entraînements, je montrais une espèce d'intransigeance pour l'incompétence, en fait, d'irrespect face aux peureux. Attends, je termine. Et limite de violence. Et pas de pitié, au point où ils se sont dit non, mais on peut pas l'intégrer dans l'arrondage. Peut-être y a-t-il eu un événement où je suis allé trop loin et ça m'a fait exclure de l'arrondage, mais d'autres de mes compétences m'ont été utiles pour la foi. Alors on m'a fait passer dans une espèce de centre de rééducation et le nouveau père, le futur père Guilhem, est ainsi rené.
Très bien. Avant de continuer, Danny, oui?
Je voulais vous proposer, là, mais moi, écoute, tu sais, l'intransigeance, je voyais tellement une espèce de côté plus... tu sais, une espèce de côté vraiment sombre, genre le gars est pour que même son ordre ne le laisse pas ou le mettre dehors parce qu'il sait qu'il va leur amener des problèmes, genre une espèce de sexe addict ou quelque chose comme ça.
Ben, dans ta liste de défauts, il y a cette intransigeance-là envers le manque de savoir, le manque, ça se peut-tu, Christophe?
Alors, j'ai un handicap, effectivement. Je suis intransigeant et j'ai des préjugés envers la paresse intellectuelle. C'est comme ça que je l'exprime maintenant.
OK. Parce que, tu sais, il a fallu que tu refoules tout ça. Lors de l'arrondage, oui, là, ils font des épreuves de vie ou de mort à des jeunes de 12, 13, 14 ans. Il y a 6 épreuves. Et à chaque épreuve, il y a des morts. C'est extrêmement violent. C'est pour ça que le frère commandant Solomon est ce qu'il est aujourd'hui et ses frères. Mais pour te faire mettre à la porte, il y a vraiment un côté noir, très, très noir, que les maîtres de l'ordre de l'arrondage t'ont pointé la porte?
Ben, non seulement il a fallu que je travaille sur moi, mais je suis certainement passé entre les mains de sans qu'on le sache peut-être, de personnes compétentes en muto-psyché, qui ont mis en place certains blocages psychiques, m'ont fait oublier des choses, ont remodelé ma conscience, ma personnalité.
Et peut-être aussi ton amitié avec Siméon qui est venu aplanir tout ça aussi.
Oui, il a très bien pu être au début une sorte de surveillant pour s'assurer que justement tout ne refaisait pas surface.
Et lentement, ça s'est muté en amitié entre
en
vous
amitié.
Deux. Indéflexible.
Oui.
Très bien. Fait. Écoute, alors que sans doute qu'on voit ta soutane grise qui aborde maintenant plus de rouge que de gris, tu rouvres enfin les yeux au prix d'un formidable effort qui demande toute ton énergie. Le faible éclat des rares torches suffit à faire naître une sensation de brûlure sur ta rétine, alors que ta vue trouve enfin son point focal. Est-ce que tu vois te glace le sang, Père Guilhem? Mais on a un fond du noir. On entend seulement la voix de Moon. Revelare verum te in natura mundi. Et les solides bras de la fatigue t'agrippent à nouveau et tu bascules de rechef dans un délire apaisant, en apparence. Et une voix qui s'élève. Mon père! Père Guilhem! Revenez, maître! La voix suppliante de ton jeune protégé, le frère Mati.
Chapitre 2. Voguer en territoire ennemi.
Quelque chose s'est accroché à la coque du navire La Marée Rouge peu de temps après leur départ. Des griffes lacérées, telles des dagues plantées dans le bois.
Ygritte, Solomon, vous êtes tous les deux attablés à discuter au pont inférieur. De lourds pas approchant vers vous font couiner le bois du plancher. Et l'imposante silhouette du capitaine John Tinball vous domine tous les deux. Ici, au pont inférieur, Solomon, tu réalises la taille du capitaine alors que sa tête touche presque au plafond.
Il est temps d'aller vous coucher, Santagar. Je ne voudrais pas que l'on m'accuse de favoriser notre champion, Euron Swan, en vous privant de sommeil sur mon navire.
Solomon, on t'envoie du Santagar à plein nez depuis que tu es à bord de la Marée Rouge. Et tu comprends que pour les Fernés, ben, c'est sans doute une façon de légitimer le fait que tu vas prendre la place de ton père dans ce duel judiciaire. Lui mort, tu es la seule personne sur qui ils peuvent rabattre leur besoin de vengeance pour ce que ton père a fait à leur capitale en l'incendiant totalement.
Écoutez, capitaine, j'espère que vous avez pas l'intention de passer tout le voyage à me materner de la sorte. Et s'il vous plaît, cessez de m'appeler Santagar. Ce nom est derrière moi depuis que je suis tout jeune. Vous pouvez m'appeler Frère Solomon, Frère Commandant Solomon ou juste Solomon. Mais oubliez ce Santagar. Je ne suis point lié à mon père.
Je ne vous permets pas de me commander ou de me juger, Santagar. Vous, les gens du Dominion, vous toisez tout le monde de haut, jugeant les autres peuples de simples barbares. Et c'est à cause de votre ignorance à notre sujet que vous avez incendié notre capitale. Si vous nous connaissiez le moindrement, vous auriez su qu'il n'y avait que des femmes, des enfants et des pêcheurs à Pike. Croyez-vous que nous sommes tous des pirates? J'ai deux frères, Santagar. Et de ma famille, je suis le seul à m'adonner au pillage. Ce n'est que 3 fermés sur 10 qui voguent sous pavillon noir. La plupart sont de simples pêcheurs ou opèrent des gisements de minerais sur nos archipels. Mais cela, les gens du Dominion n'en ont cure.
Je me lève de la table pour le toiser. Et même s'il est beaucoup plus grand que moi, hein, Solomon n'est nullement impressionné ayant lui-même abattu des hommes de cette taille-là par le passé. Écoutez, capitaine, vous me traitez d'ignorant alors que vous m'accusez presque de quelque chose qui s'est passé avant même que je sois venu au monde. Je veux dire, c'est qui l'ignore ici, là?
Tu ne vois aucune expression sur son visage de marbre. Pour lui, ce que tu viens de dire, ça ne fait aucun sens. On est très tributaire de nos parents dans l'univers de Babel. Ygritte, sa mère, était chef de tribu, donc destinée à devenir aussi la chef de tribu. Même chose pour le capitaine Kalshadim, né d'un père gardien de chèvres. Donc, même s'il est capitaine dans l'armée, c'est un fait unique et il est regardé... souvent par mépris par les autres officiers qui sont de nobles familles. Donc, tu vois le capitaine qui tourne les talons et aussitôt le plancher commence à se plaindre. Il fait cependant que quelques pas et tourne la tête de côté pour vous regarder.
Ce navire est aussi sûr qu'une prison. Vous n'avez nulle part où aller. Je vous laisse donc libre d'aller et venir comme bon vous semble. Après 4 ans dans une cage, je crois qu'un homme mérite un peu d'espace et de prendre l'air du large. Surtout au vu de ce qui vous attend sur nos îles. Mais n'abusez pas de ma générosité sans tagar. Ce que vous avez fait avec la fille du vizir, ça passe une fois, mais pas deux. Et vous entendez le plancher recommencer à gémir alors qu'il s'éloigne. Tu voulais rajouter quelque chose, Solomon?
Non, je vais me tourner vers Ygritte et je vais lui dire « J'ai l'impression que ce voyage-là risque d'être très long avec des gens qui m'en veuillent autant pour quelque chose que j'ai même pas fait pour une fois. »
Je voulais pas couper en fait la parole à personne, mais Ygritte, quand elle a vu le capitaine un peu répondre à Solomon ou je sais pas trop quoi, elle se met automatiquement un peu sur la défensive puis elle s'est levée avant Solomon pas pour faire face au capitaine puis tu sais le narguer ou rien, mais juste être prête puis être sur la défensive. C'est comme si elle était plus que jamais, dès qu'elle a retrouvé Solomon, prête à respecter son engagement. Là.
Elle est déjà prête à payer sa dette.
Ouais, c'est ça.
Ouais, plus que prête, même.
Plus que prête.
OK. Donc, alors qu'on voit la grande silhouette du capitaine, je dirais, fusionner avec la noirceur des lieux, car c'est l'endroit où dort la plupart des pirates, on entend les hamacs, le cordage des hamacs se faire entendre selon la houle de la mer. Vous êtes les deux là, sauf qu'il y a une différence entre vous deux. On voit un Solomon décontract et on voit peut-être la caméra qui descend sur le bras droit de Ygritte et on voit ses veines saillantes. Elle était prête.
Elle était.
On va aller du côté de Kenan. Oui, vas-y, Andréane.
En fait, je pense que Ygritte a la réponse de ce que Solomon lui a adressé avant que je mette ma scène en place. Mm-hmm. elle lui dirait dans le fond que il y a pas de problème si vous avez envie d'aller vous reposer, peut monter la garde.
Vous vous sentez autant en danger que ça, au point de faire des tours de garde sur ce navire?
Non. Ygritte, honnêtement, je crois pas qu'on soit en danger. Ils tiennent trop à ce que je participe à ce duel-là et que je sois tué devant tout le peuple des Îles de Fer. C'est une sorte de vengeance par rapport à ce que mon père a fait.
Aux paroles de Solomon, est-ce qu'on voit les bras de Ygritte se décontracter un peu?
Pour le moment, oui, mais c'est certain que aux paroles de Solomon, c'est comme si ça avait apaisé Ygritte en même temps de venir semer une espèce de graine dans son esprit que la destination vers laquelle on se va, c'est peut-être très risqué dans le sens que les gens sur ce navire-là, ils s'attendent à avoir la mort de Solomon, mais qu'elle est prête à tout pour pas que ça arrive. Fait qu'elle essaie de pas trop y penser, mais ça va peut-être probablement causer problème.
Ah ouais?
Ah ouais.
Nous verrons bien. Allez, on s'en va du côté de Kenan. Kenan, alors que tu as quitté tes joyeux comparses fermés, tes nouveaux amis entre guillemets forcés, quelle est la démarche de Kenan? Est-ce que tu as abusé de l'alcool?
Ah, j'ai totalement abusé. Je pense qu'on doit voir Kenan avec une démarche un peu d'éponge en train de nettoyer en train de nettoyer le sol là, en train d'avancer le complètement courbé et puis en train d'essayer de retrouver de tâter un peu à droite à gauche pour arriver à retrouver son chemin jusqu'à sa cabine.
Oui, en plus, t'es sur un bateau, donc aussitôt que ça tangue d'un côté, sans doute que tu t'y diriges promptement et tu viens à côté sur une poutre ou t'es dans le couloir à te faire balloter de gauche à droite, en partie à cause de la mer, mais en partie à cause de l'alcool.
C'est ça. Mais je suis bien en tout cas, c'était une bonne soirée, donc je reviens en tâtonnant, mais pas forcément d'un pas hyper rapide. Je continue à profiter un peu de la soirée en même temps. Profiter du chemin jusqu'à ma cabine.
Très bien. Écoute, tu es toi aussi au pont inférieur, mais à l'autre extrémité. Il n'y a pas grand pièce fermée, donc aussitôt que tu vois une porte qui est fermée, ben tu reconnais ta cabine. Tu entres dans ce semblant de cabine, hein, parce que c'est une pièce qu'on a aménagée pour toi, alors que tu t'attendais à avoir un lit, ben c'est un hamac qui t'y attendait. Et sans doute, alors que tu refermes la porte derrière toi, tu sursautes légèrement en apercevant une silhouette tout au fond. Il y a un homme qui se tient près de ton hamac, dos à toi.
Dos à moi, d'accord. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ma cabine ici.
Il se retourne lentement, un de tes livres dans une main et dans l'autre, l'un de tes vêtements. Il a la barbe bien taillée, les cheveux coupés en brosse. Un homme dans la quarantaine, là, affichant un visage assez dur au-dessus d'un corps là, solidifié et endurci par l'exercice et le travail physique. C'est donc ça le fils du grand commandant Beryn Karaman? Des livres et des beaux vêtements de soie. Deux activités décadentes. Il crache sur le plancher.
Je pense que on était envoyé pour l'instant Kenan recourbé par l'alcool. À ce moment-là, il va se retenir droit comme un i, un petit peu chancelant, puis amener son doigt vers la bouche en disant chut. Je ne vous permets pas, monsieur.
Tu le vois balancer le livre et le vêtement dans le hamac, et il avance vers toi en sortant un couteau. Mais de manière si nonchalante qu'il est pratiquement impossible de percevoir un réel danger dans le geste. Il fait environ 3-4 pas vers toi, puis tu le vois qu'il baisse les yeux sur la dague qu'il vient de sortir.
Je vais lever les mains et puis reculer doucement. Oh, qu'est-ce que vous faites là?
J'ai connu ton père avant qu'il ne soit le guerrier de renom qu'il est devenu. Il était alors lieutenant. Tu ne devais être qu'un poupon à ce moment-là.
Il délaisse du regard la dague et élève la tête pour te jauger. Mais il te semble absent. Comme si l'homme avait rejoint les songes de son passé.
Cet été-là, la sécurité de vos villages côtiers avait été renforcée, si bien qu'il était impossible de les attaquer. Nous avons donc ancré notre navire dans une crique, et nous sommes partis une trentaine d'hommes pour nous engouffrer à pied, plus loin à l'intérieur des terres. En une semaine, nous avons pillé deux villages sans subir aucune perte. Nous revenions à la crique et au navire quand nous sommes tombés sur une patrouille mésoène. Ton père était alors à la tête d'une dizaine d'hommes. Tu t'es déjà battu à 1-3? Il est pratiquement impossible de gagner sur un terrain découvert. Les coups viennent de partout et tôt ou tard la morsure froide d'une lame trouve ta chair.
mais ton père nous a attirés dans un col étroit. Confiant à cause de notre nombre, nous avons tout de même engagé le combat. Au bout d'une quinzaine de minutes, nous avions perdu la moitié de nos hommes. Ton père, lui, était flanqué de 2 soldats. Sa situation était pire qu'au départ. Il se battait maintenant à 1 contre 5. Mais nous avions tout de même perdu une 15 hommes sur 30. « Vas-tu te rendre, sale con ?» que je lui ai crié alors, souffrant de la dague qui était plantée dans ma jambe. Tu vois qu'il relève lentement le couteau. Cette dague, celle de ton père. Tu réalises alors qu'il s'agit bel et bien d'une arme de facture mésoène qui brille dans ses mains. Il m'a hurlé « Demain, je vais manger avec ma femme et mon fils, Ferné. J'en fais le serment. » J'ai éclaté de rire. Toutefois, sans nous concerter, nous avons reculé et nous avons fait un long détour de 5 jours pour regagner notre navire. Pourtant, à 5 contre 1, nous savions qu'il était impossible de perdre. Mais nous avons tout de même fui devant ton père. Tu sais pourquoi? Et là, il darde des yeux, mais pour 2 raisons. D'abord, nous étions certains que si nous l'affrontions, il emporterait encore de nos amis dans la mort avec lui. Et de 2, parce que nous avons cru ton père. Au moment où il a dit qu'il mangerait avec sa femme et son fils, je l'ai vu assis autour d'une table en train de rigoler devant les mimiques et les gazouilles d'un bébé à peine 1 an. Il avance encore un peu plus près de toi, Kenan. Alors tu peux comprendre ma déception profonde en posant mon regard sur toi. Tu n'es pas le fils de Beryn Karaman. Il recule de 2 pas, puis se dirige vers la porte. Avant de l'ouvrir, il plante la dague dans le bois, à la hauteur d'une tête. Sa lignée est morte avec lui. Il ouvre la porte. Il te jette un dernier regard, Kenan. Et si tu étais vraiment le fils de Beryn, cette dague serait dans l'estomac de l'homme qui a causé sa chute. Et tu entends la porte claquer.
Son dernier message me fait déglutir de peur. Je pense que le coup de stress qui m'a mis en me menaçant avec son arme m'a fait un petit peu redescendre de mon ivresse. Mais avec la fatigue, je vais juste me déplacer, aller vers la dague, la regarder, la retirer et puis aller vers mon hamac et m'endormir en la regardant.
Est-ce que le sommeil va te trouver facilement?
Assez vite, ouais. En fait, je vais comme juste un petit peu regarder la dague, réfléchir, mais sans vraiment réfléchir parce que je suis trop fatigué et encore trop saoul. Mais non, je vais trouver le sommeil assez rapidement.
Alors, au bout de 5 minutes, nous allons entendre des ronflements provenir de cette pièce.
Puis peut-être un bruit de métal avec la dague qui finit par tomber de ma main.
Plantée au sol. Nous allons rester au pont inférieur, mais nous diriger vers Ygritte. Toi et Solomon êtes installés au pont inférieur dans une grande aire ouverte où sont disposés plusieurs hamacs. Il y a une seule lampe qui éclaire l'espace et elle se balance au rythme des vagues, donnant ainsi vie et mouvement à toutes les ombres qui t'entourent, Ygritte. Ajoute à ça le va-et-vient en cœur des hamacs, la plupart recueillant un pirate endormi, et tout le décor semble se mouvoir autour de toi. Ygritte, je te pose la même question, toi aussi. As-tu facilement trouvé le sommeil, calé dans ton hamac, à te balancer en suivant le mouvement de la mer?
Non. comme dit précédemment, en fait, Ygritte, c'est sa première expérience sur un navire, puis elle est beaucoup plus à l'aise sur la terre ferme. le fait que ça bouge en permanence, c'est pas une berceuse pour elle, là. C'est plus un mal de mer, là. C'est pas
les sons, le bois qui craque.
Ouais. C'est tout ça, on pourrait penser que ça fait penser à que ça pourrait rappeler une forêt ou quelque chose comme ça, mais non, c'est pas la même musique à ses oreilles, là.
Très bien. Mais au final, la fatigue étant la fatigue, t'es pas prêt à on finir par
tomber. Mais c'est pas un sommeil du genre je me couche la tête sur l'oreiller puis je pars.
Tes sombres rêves te transportent vers un souvenir de ta jeune enfance que tu fais tout pour oublier. L'automne de tes 9 ans. La froide saison a changé la couleur des feuilles dans les arbres et tu es recouverte d'une chaude fourrure. Yuma, ton jeune frère de 5 ans, marche dans ton ombre, derrière toi, alors que Bli, ton beau-père, marche devant vous pour vous conduire jusqu'à une rivière pour pêcher. Son haleine fume dans la froide matinée alors qu'il chante l'histoire de votre tribu, l'aube grise. Alors que tu dors, le souvenir de ton amour pour Bli t'envahit. Il est l'image que tu te fais d'un père bienveillant, toujours là pour toi et Yuma, ton petit frère. Vous descendez un étroit sentier qui longe une falaise, qui jette ses assises dans l'eau glacée de la rivière plus bas. Soudain, le son sourd des corps qui s'entrechoquent. Deux hommes ont mis à terre Bli. D'un coup de tomahawk frappé du bas de la lame. Ton beau-père est étourdi au sol et gémit, tout en tentant de se relever. Le sang qui coule de sa tête reste épais sur la terre gelée. Deux autres hommes s'arrachent au feuillage des buissons, l'un fonçant sur Yuma et l'autre vers toi. Celui sur Yuma l'empoigne par une jambe et le soulève à la hauteur de son visage. L'homme rigole devant la petitesse de sa proie. « Tout ça pour Chenabo! » Hurles-tu, petite Ygritte? Oui, sûrement, car l'un des hommes du duo qui a neutralisé Bli le délaisse et fonce vers toi pour se joindre à celui qui avançait déjà sur ta position. Derrière eux, tu entrevois l'autre homme resté au-dessus de Bli abattre son poignard dans sa poitrine à 3 ou 4 reprises, chaque fois dessinant des arcs sanglants qui fument dans l'air glacial. Méfiant, les deux hommes avancent vers toi avec la précaution de prédateurs à l'affût. Témoin de la mort de Bli, ta vue se brume de larmes. Dans la réalité, tu hurlais sans cesse, ne reconnaissant pas le son de ta propre voix, déformée par la douleur et le désarroi. Dans la réalité, Ygritte, tu as été facilement prise à bras de corps et soulevée de terre. Dans la réalité, tu as vu l'homme tenant ton petit frère par une jambe se donner un élan pour fracasser son petit corps fragile de 5 ans contre un énorme rocher. Une deuxième fois, puis encore et encore. Le rocher rougit au même rythme que les vêtements et la fourrure qui protègent Yuma. Bientôt, ce n'est qu'un corps désarticulé, un pantin sans ficelle que l'assassin tient à bout de bras. Constatant la masse sanglante qui la grippe, l'homme affiche son dégoût avant de pivoter et de lancer ton petit frère dans le vide, vers la falaise. D'où tu es, près du précipice, tu peux suivre du regard sa longue chute vers les rochers qui percent ici et là la rivière. Son corps frappe le roc et rebondit dans les torrents, puis disparaît. C'est la dernière image que tu as de ton petit frère. Ça, c'est la triste réalité, Ygritte, ton passé. Maintenant, tu es dans un rêve cauchemardesque. Tu peux changer les choses ici. Tu revois Yuma, bien vivant, tête à l'envers, tenu par une jambe par le guerrier. Tu peux le sauver, Ygritte. Tu n'es plus un enfant sans défense. Tu es une guerrière émérite et redoutée. Que fais-tu, Ygritte, dans ce cauchemar où l'on s'apprête à tuer ton petit frère, encore une fois, comme à chaque nuit?
Je vois bien la petite Ygritte. En fait, on entend son,
sais, son cri résonner dans le rêve originel, ben, l'image originelle là, de des événements qui se sont passés, mais le cri, il ressort pas comme un cri de terreur et d'effroi, mais plus comme son cri de guerrier puissant puis menaçant. Puis, suite à quoi, je verrais bien la très jeune Aigrette utiliser son pouvoir, faire sortir ses griffes de ses mains, puis s'élancer vers les assaillants, en fait, les gens qui se dirigent vers elle premièrement, puis ensuite ceux qui détiennent son frère. Là.
Très bien. Lorsque tu utilises tes griffes, c'est avec art martial, sous robustesse. Tu as combien?
J'ai 10.
C'est fort. Ça te fait un jet à 70, Ygritte.
Ouais.
70. Alors que tu fonces sur les deux qui menacent ta vie. Les deux assassins de la tribu des ours rouges.
Ah, j'aurais 11.
Ça serait une réussite critique. Écoute, dans cette passe d'armes, tu peux disposer des deux guerriers, si tu veux.
OK, donc je vois bien... donc, Ygritte qui s'élance dans une... en utilisant toute la force de ses jambes, t'sais, on peut voir... malgré son jeune âge de 9 ans, la musculature déjà anormale pour un enfant de cet âge-là, venir se contracter, se raidir à chaque pas, plein de détermination pour venir assainir un à la fois, ses poings, dans le fond, en direction du premier, glisser sur ses genoux en tournant pour empaler de ses deux poings le deuxième, puis regarder, couverte, en fait, du sang des deux hommes qu'elle vient de tuer, celui qui tient son frère par les pieds, finalement.
Tu vois l'homme, les yeux exorbités, lâcher ton frère qui est tête à l'envers, va se réceptionner sur l'épaule en poussant un cri. Mais au moins, il ne chute pas vers la falaise. Que fais-tu? L'homme porte sa main à sa hanche pour prendre sa hache.
De plus belle, comme si j'avais trop souvent revécu ce moment-là, c'est certain que Ygritte ne permettra pas de lui laisser la vie sauve, qu'il revienne, ou que, comme si elle avait besoin d'en finir, de mettre fin à son existence pour que elle ne revoie plus jamais ça dans sa tête, là. Donc, elle va se. Avec une cette fois-ci, par contre, avec une espèce de sourire malicieux du genre. À la Joker, peut-être, là, que c'est comme. C'est enfin aujourd'hui que je mets fin à ta vie puis à toutes ces images que j'en peux plus te voir. Là.
On parle d'un sourire presque malsain.
Ouais.
Proche d'une certaine folie, là.
Ouais, c'est ça, comme je te dis, comme le Joker, une espèce de sourire. C'est pas un beau sourire agréable, là, c'est un sourire effrayant, très malicieux, t'sais, très... Un peu comme, on pourrait dire, une espèce de sourire de quelqu'un qui est en train de violer quelqu'un d'autre, là, qui a un plaisir dans le malheur.
Ouais, un sourire pervers. Ouais. Et un sourire qui devrait pas avoir lieu dans le visage d'un enfant de 9 ans.
Non.
Et tu vois quelque chose sur la poitrine de l'homme face à toi, mais c'est flou. Comme si ton inconscient refusait que tu te souviennes d'un détail affiché sur cette poitrine. Et alors que tu t'apprêtes à bondir sur lui, hein, sourire aux lèvres, un grognement vient briser les chaînes qui te lient à ton cauchemar. Ygritte, tu te redresses, droite comme une barre dans ton hamac, dans les semi-ténèbres, des sons de pas sur le bois, le cliquetis de griffes. Le pelage entièrement blanc d'une louve fend la noirceur pour s'approcher de toi. Tu reconnais l'actée, la louve alpha de ta meute. Il suffit, Ygritte. Mon enfant, quand cesseras-tu de te voiler la face et de rejeter la réalité? Toute l'origine de ta rage est là, en ce moment, à tes 9 ans. Les assassins de ton beau-père et de ton frère t'ont lancé aussi dans cette rivière, te laissant pour morte. Tu revois alors le guerrier Guanac de la tribu des Ours Rouges qui te tient par la gorge au-dessus de la falaise, tes jambes qui fouettent désespérément le vide sous toi. Ta tribu humaine a tort, mon enfant, continue l'actée. Retrouver ce Solomon ne changera rien à la rage qui ronge ton cœur. Elle n'a rien à voir avec cette insignifiante dette de vie envers le frère commandant. Cette rage indomptable est le fruit de 2 événements intrinsèquement liés, mon enfant. D'abord, la mort horrible de ton petit frère qui t'a été arraché, l'être que tu chérissais le plus au monde, et aussi le lien avec ma meute pour te sauver ce jour-là. Et là, tu vois la louve s'approcher tout près de ton hamac, venir comme renifler ta main, y déposer sa langue pour te lécher. Un geste qu'elle a fait des milliers de fois. Pour te sauver ce jour-là, Ygritte, je t'ai lié à moi. Nos âmes ne font plus qu'une, mon enfant. Mais alors que les loups maîtrisent la part du prédateur en eux, depuis des milliers de générations, toi, humaine, tu peines à contrôler cette part sauvage en toi. Je le regrette, ma fille. En te sauvant la vie, je t'ai aussi donné une part du loup que tu ne sauras jamais totalement apprivoiser. J'en ai bien peur. Si tu retournes auprès de ta tribu humaine, je crains pour leur sécurité. Solomon est un focalisateur, et si tu restes près de lui, je pense que ce sera... Le rêve se brise en 1000 morceaux, Ygritte. Le son d'une cloche dans la nuit. Tu te réveilles une seconde fois. Tu réalises que tu rêvais encore. Et là, tu le sens. Tu es vraiment dans la réalité alors que tu vois des ombres s'estirper de la noirceur. Ça s'agite un peu partout. Les pirates s'estirpent de leur hamac pour vite se vêtir ou empoigner leurs armes et se mettre à courir jusqu'à l'échelle qui monte au pont principal. Que fais-tu?
Je me prépare, dans le fond, à faire comme eux, mais tout en leur laissant, en fait, les devants pour pas nuire à personne, étant donné que j'ai aucune idée de ce qui se passe, là, mais je vais aller les rejoindre une fois que je vais être prête.
Solomon, ton hamac est sans doute tout à côté de Ygritte. Toi aussi, tu te fais estirper de ton sommeil par cette cloche qui retentit.
Très bien, sauf que Solomon ne sera pas sur le hamac, hein. Il va être couché à même le bois. Parce que il est habitué, après 4 ans, à dormir sur de la pierre, à dormir sur du dur. Sous le hamac, Solomon va se réveiller comme les autres. Et comme Ygritte, va les laisser agir en premier et suivre un peu le défilé. Hein, Solomon se sent étranger à ce qui se passe et de toute façon, on veut pas vraiment de son aide, il le sait, il est enchaîné, fait que quoi qu'il arrive, il va être spectateur là, pour l'instant.
Très bien. De ton côté, le son va être un peu plus sourd, Kenan. De un, parce que tu es dans un semblant de cabine, Et de deux, parce que ton esprit est embrumé par les vapeurs d'alcool. Mais est-ce que tu entends la cloche?
Je vais mettre du temps à comprendre que c'est une cloche. Donc je vais peut-être prendre un peu plus de temps que la plupart des gens et je vais finir par me lever comme je peux, sortir de... m'extirper de mon hamac. Je pense me prendre la dague qui était plantée juste à mes pieds, me le prendre dans les pieds et faillir trébucher dessus. Puis je vais sortir avec un peu de retard.
Oui, peu habitué à ton environnement, sans doute, alors que tu mets le pied sur cette dague, tu t'agrippes au hamac, et comme c'est un hamac, il fuit. Et on voit peut-être t'étaler au sol, ce qui finit de te réveiller totalement. Et on voit un Kenan se relever difficilement, d'abord à quatre pattes, puis se donner... tenter de se donner belle allure. Tu as dormi tout habillé, donc libre à toi de sortir de ta cabine telle que tu es.
Ouais, je vais juste sortir comme ça, là.
Étant donné ta position, t'es très proche de l'échelle, donc tu vas voir des pirates, des fernés s'activer en toute hâte à grimper l'échelle. À un moment donné, tu vas sentir que le momentum est bon. Il y a des hommes, à un moment donné, whip, il y a comme un espace. Tu vas commencer à monter, tu vas vite t'apercevoir que que t'es pas vraiment rapide parce que tu sens que t'es comme poussé par l'arrière par d'autres pirates qui veulent monter. Mais tu vas être donc le premier à arriver sur le pont. Tu vas sans doute lever la tête vers le haut du mât principal alors que Clayton, qui est à la vigie, hurle « Navire en vue! Navire en vue! Identifié! C'est la veuve blanche du capitaine Ted Kenning! » Fait que tout le monde s'affaire. Et tu constates que l'aube, elle en est plus à ses premières respirations, mais pourtant on jurerait que le soleil touche encore la ligne d'horizon, tellement le ciel est sombre. Sombre, mais sans trop de nuages. C'est très curieux. C'est comme si le ciel était voilé d'un brouillard. La caméra qui s'en retourne vers l'échelle, qui on voit s'extirper du pont inférieur, de l'intérieur du navire. Est-ce Ygritte ou Solomon en premier?
Probablement moi, j'imagine, puisque Ygritte doit surveiller mes arrières. Donc, on va me voir, la tête en premier, puis surgir sur le pont rapidement. Regarder autour de moi, voir ce qui se passe là, au travers des hommes qui courent un peu partout.
On voit un navire qui est, je te dirais, à plusieurs mètres encore. Mais déjà là, une fois que tu l'as regardé, on dirait que tes yeux n'arrivent plus à se détacher de la silhouette. Et comme pour confirmer ce que tu vois, on entend Clayton grimper à la vigie.
On dirait qu'une espèce de brouillard s'est accroché au navire et ses voiles. Je n'ai jamais vu ça, capitaine.
Et au mot capitaine, ben tu le vois. Alors que tu réussis enfin à détacher ton regard de la silhouette du navire, tu vois l'imposante silhouette du capitaine qui est perché au-dessus du château, tout près du gouvernail, en train de jouer dans sa barbe l'air pensif. Et là, vous voyez tout le monde là, s'activer, là. Surtout étant donné l'aspect du navire, la température, on dirait que tout contribue à rendre les hommes très nerveux. Arrêtant de se jouer dans la barbe, vous voyez John Timball.
Parfait, mettez une chaloupe à l'eau. Pas question de faire aborder la marée rouge à la veuve blanche sans savoir de quoi il en retourne.
Et là, on voit une petite équipe se préparer autour du capitaine en second, Maverick, l'homme qui a visité Kenan dans sa cabine au cours de la nuit. Vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par les événements, hein? joue les pirates à bord connaissent leur tâche, savent le rôle qu'ils ont à jouer. Et vous, ben, vous êtes un peu comme un peu laissé à vous-même, alors que tout le monde s'agite comme des fourmis ou des mouches autour de vous.
Ouais, c'est ça, je vois bien Kenan un peu bousculé dans tous les sens par les...
Oh oui, se faire plaquer quelques fois.
Ouais, se faire plaquer et puis se déplacer un petit peu dans un coin, là, chercher un endroit pour se poser déjà.
Allez, pousse-toi, petit! Laisse le monde travailler!
Et là, tout le monde s'active. Et là, alors qu'on voit 4-5 hommes s'agrouper autour du capitaine en second, Maverick, Mali, qui est toujours enchaîné au mât principal.
Capitaine! Capitaine!
Et là, dans le brouhaha des gens et de l'équipage qui s'affaire, ça prend environ 5 ou 6 cris avant que le capitaine Timble perçoive l'appel de Mali. Et lorsque le capitaine se retourne vers lui, du haut du château, derrière le navire.
Capitaine Timbal, si vous n'envoyez pas le frère Solomon et ses accompagnateurs sur cette chaloupe, nous mourrons tous. La marée rouge sera à l'image de la veuve blanche.
Et ça, vous l'avez perçu. Et on voit le trouble. Alors que tu l'as vu, Solomon, c'était assez dur de perturber le capitaine. On voit que un léger tic vient faire cligner son œil gauche. Et vous êtes pas les seuls à avoir entendu le cri et l'avertissement de Mali. Hein. Il y a plusieurs hommes, plusieurs fermiers qui l'ont entendu, même au point que certains se sont arrêtés de vaquer à leur occupation comme pour attendre la décision du capitaine. Et un des hommes qui a entendu, c'est Joe, le guérisseur et le prêtre du dieu noyé à bord de la marée rouge. Et lui fusille Mali du regard. Qu'est-ce que tu fais, Solomon?
Écoute, moi, je me fais discret sur le pont pendant que tout le monde bouge partout, et puis j'entends cet échange-là. Je sais que Mali a des visions et que ce qu'il dit est probablement vrai, et donc je vais m'approcher du capitaine en attente de sa décision par rapport à ça.
Fait que tu grimpes les marches qui mènent
ouais.
sur le château.
Exact.
Et tu vas donc rejoindre le capitaine. Vista est là, la navigatrice. Également, ce guérisseur, hein, ce prêtre dieu noyé. Et tu le vois s'approcher du capitaine.
John, quand arrêteras-tu cette folie et cet affront envers le dieu noyé de prêter foi au mensonge de ce représentant de notre dieu?
Et là, le capitaine ne se retourne même pas aux supplications de Joe. Et comme frustré, tu vois le prêtre là, dévaler les marches pour se diriger vers Mali.
Solomon s'approche du capitaine et lui dit « Si Mali a vu quelque chose et qu'on a une chance de sauver votre équipage, capitaine, je crois qu'il serait stupide de pas suivre ses recommandations. »
Alors que tu termines ta phrase, tu vois le prêtre du dieu noyé balancer un coup de pied au ventre de Mali. Déjà, l'homme était assis au sol, lui aussi les mains liées par des chaînes qui le retient au mât. Mais on le voit se tordre et comme prendre une position fétale, prêt à recevoir un deuxième coup de la part du prêtre. Et ce coup ne va pas tarder. On voit le prêtre lui balancer un autre coup de pied.
En voyant l'importance que Solomon semble donner aux interprétations de Mali, puis qu'elle voit le guérisseur et prêtre lui assigner le premier coup de pied, elle va se diriger vers Mali, en fait, pour en espérant éviter le deuxième, pour qu'il arrête ses coups, vu qu'il est déjà pas en posture de se défendre. C'est absolument inutile de varger dessus, hein, en français.
Alors que tu vas avancer vers Mali et le prêtre du dieu noyé, le deuxième coup va arriver. Et tu vois que le prêtre arme sa jambe vers l'arrière comme pour frapper une troisième fois.
Ygritte va essayer de contenir un peu son désaccord, puis va simplement placer une main sur l'épaule du guérisseur mais tu sais, un peu une main un peu insistante en disant ça suffit.
Tu vois l'homme comme sursauter, surpris qu'on vienne le stopper dans son élan, et en sursautant, il se retourne pour te dévisager. Et t'as peut-être un moment de recul, Ygritte, parce que ce que tu vois sur le visage de ce prêtre, il y a presque un côté pervers que tu reconnais avoir eu toi-même dans ton rêve. Alors que lui est surpris et que toi aussi, tu te surprends à avoir un mouvement de recul face au côté quasiment jouissif qu'a cet homme de frapper ce prisonnier. Mais t'as la voix du capitaine qui vient supplanter tous les bruits alentour de vous.
« Il suffit, Joe! Ma décision est prise. Carl, sage, vous accompagnerez nos invités sur la Veuve Blanche. »
Et là, il regarde le Carl en question.
« Que rien ne leur arrive, compris? »
Et là, t'as le prêtre qui sort comme de sa torpeur.
« Le fils de l'incendiaire doit se présenter au duel judiciaire, John! Nous attendons ce moment de vengeance depuis 20 ans! »
Et là, tu le vois, les veines sorties dans son cou alors qu'il hurle. Et là, vous comprendrez sans doute que au niveau de rapport de force, le prêtre Dieu Noyé, alors que tout le monde envoie du capitaine à John Timble, lui n'hésite jamais de l'appeler par son prénom, hein, John. Et alors que Solomon, t'es toujours à côté de John Timble, tu l'entends, cette fois-ci, il ne crie pas, il parle. Est-ce que Joe va entendre ou pas? Est-ce qu'il se parle pour lui-même? Tu ne saurais le dire.
Si nous mourons tous, il n'y aura pas de duel.
Et le capitaine se retourne vers toi, Solomon.
Êtes-vous prêt à embarquer sur ce navire sans ta garde?
Solomon va simplement acquiescer et descendre le château.
Et alors que tu descends les marches pour gagner le pont, Solomon, un pressentiment vient exercer une pression contre ta poitrine. Tu en es persuadé. Ce que vous allez découvrir sur la Veuve Blanche ne devrait pas vous plaire.